Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Encore une fois, un petit mot avant de lancer l'émission. Alors, ce coup-ci, c'est vrai, il y a eu des problèmes de son dans l'émission. C'est pas parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour enregistrer. Ce coup-ci, c'est pas ça qui a été le problème. Et donc, je vous préviens parce que ça, c'est vraiment un son d'une qualité qui est un petit peu moins bonne que d'habitude. On avait d'une part Florian et d'autre part Gaël qui avaient des micros qui étaient un petit peu pas idéaux. Donc, je suis désolé. On essaye toujours d'avoir une qualité de son qui est correcte. Mais vous savez, on essaye d'avoir des gens de différents horizons, de différents domaines, qui participent à l'émission, et on a chaque fois des gens différents, donc ça apporte une richesse, j'espère, à l'émission. C'est pour ça que je le fais. Mais parfois, malheureusement, bah, il y a des gens qui ont des réseaux qui sont très bien sécurisés, comme on le dit dans l'émission, et qui donc doivent utiliser des solutions alternatives qui sont pas idéales. J'espère que vous me le pardonnerez, et on vous promet qu'on essaiera de faire mieux la prochaine fois et d'éviter ce genre de soucis. Allez, je vous lance l'émission. En tout cas, c'est intéressant. Donc, écoutez, je pense que ça vous plaira malgré tout. Aujourd'hui, dans le Rendez-vous Tech, on va vous parler des annonces de Microsoft et notamment du Surface Laptop Studio, un petit peu surprenant, de l'ordinateur portable modulable, le Framework, et on a aussi des sujets assez sérieux, comme l'Union européenne qui veut l'USB-C partout, et les Facebook Files, un sujet extrêmement explosif qui se fomente sur Internet depuis quelques semaines déjà. On vous donnera tous les détails. Se fomente, je sais pas si c'est très français, c'est pas grave, c'était dans l'instant, je lance des mots comme ça qui ne veulent rien dire, mais je suis quand même Patrick Béja et c'est le Rendez-vous Tech numéro 423 en septembre 2021. J'ai l'immense plaisir de recevoir une nouvelle fois Gaël Girardot qui nous arrive directement des bureaux de Coude. Comment ça va, Gaël?
Salut Patrick, bah écoute, ravi d'être là, malgré visiblement les thèmes qui sont si sérieux, mais on va essayer de faire ça avec bonne humeur comme toujours.
Oui, bah on a des petits gadgets au début, donc ça va être sympa, mais je vous préviens, la deuxième partie de l'émission, et ça va être législation, conséquences sur la société, tout ça. Non, mais c'est des sujets, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer exactement, mais c'est des sujets importants qu'il faut comprendre si on veut comprendre la société. Ce n'est pas forcément les plus fun, mais c'est intéressant. Les deux ne sont pas forcément antithétiques. On peut être un peu intéressant, même si ce n'est pas super fun. Ça va bien se passer. Tu as raison, il ne faut pas que je les fasse fuir. Restez, ça va être sympa. Et on a également, pour nous aider à parler de ces sujets sérieux, Florian Deb des Échos, qui forcément, t'es chez les Échos, donc t'es quelqu'un de sérieux, Florian. Merci de nous donner ta caution sérieuse à cette émission.
Bonjour, qui n'est pas tellement très sérieux, mais il faut quand même se dire que ces sujets très sérieux, c'est des sujets de tous les jours. Et par exemple, sur l'USB-C, c'est quand même la question, est-ce que tu as un chargeur? Non, je ne l'ai pas, on n'a pas le même. Bon, bah, c'est un problème.
Bah, exactement, c'est des sujets qui influencent notre vie quotidienne et peut-être même au-delà. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Un petit shout-out d'ailleurs aux directeurs informatiques des Échos qui font très, très bien leur boulot, comme on en plaisantait avant de lancer l'enregistrement, parce que visiblement, le réseau interne des Échos est verrouillé. Donc, tu es obligé de passer par ton téléphone et la 4G pour participer à l'émission, c'est ça? C'est ce que tu me disais?
Exactement, j'espère que ce sera assez audible pour tout le monde et qu'il n'y aura pas trop de grésillés.
Je pense que ça va aller, mais tu sais, dans n'importe quelle autre émission, on dirait, c'est pénible, pourquoi on peut pas utiliser le logiciel qu'on veut sur le réseau de la boîte? Et là, comme on est dans le Rendez-vous Tech, on comprend l'importance d'un système bien sécurisé. Donc, au contraire, on applaudit le professionnalisme des responsables du réseau dans ta boîte. Bravo à eux. Bon, ça nous arrange pas énormément personnellement, mais c'est quand même très, très bien. Avant de nous lancer dans la discussion sur les annonces de Microsoft et en particulier du Surface Laptop Studio, je voudrais remercier Guillaume Briand, Gabriel Montano, Peter Rigal, Cyberveille, Thibaut Murard, et les producteurs Franck Matignon et Derek Herbe qui soutiennent le rendez-vous tech qui permettent à cette émission d'exister et en particulier Franck et Derek qui sont au niveau producteur. Donc merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir financièrement l'émission. Et puis un petit mot pour vous dire qu'on va parler dans l'émission du Framework, qui est un ordinateur portable extrêmement intéressant, qui est modulable, qui est une promesse qu'on avait depuis, enfin une promesse, un fantasme que certains avaient depuis longtemps et qui se réalise aujourd'hui aux États-Unis. On en fera peut-être le sujet de discussion de l'after show. Je vous propose qu'on en parle donc dans l'émission un petit peu et puis on en parlera dans l'after show aussi pour avoir l'avis des auditeurs. Donc si vous êtes patriote au niveau qui vous donne accès à l'after show, venez dans le Discord après l'émission et on en discutera tous ensemble. Mais la première partie de l'émission, c'est donc cette annonce de, enfin cet événement d'annonce de Microsoft qui nous a montré de nouvelles tablettes Surface. Je ne sais pas si on a besoin de passer énormément de temps sur toutes les annonces. Je ne sais pas si vous avez vu les différentes surfaces qui ont été annoncées, mais il y en avait plusieurs et la plupart étaient, on va dire, une continuation des surfaces existantes ou des nouveaux modèles plus puissants, plus modernes, etc. On a une nouvelle Surface Duo 2 qui est peut-être la deuxième plus intéressante, qui est cette machine un petit peu étrange, qui est en fait un double écran très petit, qui est pas un téléphone selon Microsoft, mais qui est un double écran qui travaille l'un avec l'autre et qui fait un mélange entre téléphone et tablette, dont le nouveau modèle a une série d'appareils photo de bien meilleure qualité qu'avant et une série d'améliorations. C'est peut-être la deuxième plus intéressante, comme je le disais. À part ça, il y a un Surface Go 3 qui est un Surface Go 2 amélioré, comme on pourrait l'imaginer, et puis un Surface Pro 8 qui est un Surface Pro 7 amélioré, enfin le nouveau modèle du Surface Pro qui est amélioré. Le Surface Pro, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est la version tablette à laquelle on peut ajouter un clavier amovible. Donc c'est un autre modèle complètement. C'est le cas aussi de la Surface Go qui est une version un petit peu moins puissante de ce modèle Surface. Donc sur ces éléments, on pourra en parler aussi, mais vraiment celle qui a marqué les esprits au moment de l'annonce, c'est donc cette Surface Laptop Studio qui est un petit peu difficile à décrire en fait. On peut imaginer un ordinateur portable classique, assez fin, dans la ligne de ce qu'on voit généralement dans le design des ordinateurs fins modernes, type MacBook, hein, c'est eux qui ont lancé la tendance. Sauf que l'écran a une charnière qui est située au milieu horizontalement de l'écran et qu'on peut la déplier. C'est en fait un 2-en-1, mais qui ressemble vraiment à un portable complètement haut de gamme et qui peut donc se plier pour que l'écran vienne se mettre sur le clavier avec la face écran visible vers le haut. Il faut vraiment le voir pour comprendre comment ça fonctionne, mais c'est un design qui est hyper audacieux, qui est de haute qualité. La machine en elle-même, elle est plutôt vraiment convaincante au niveau du design. Je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté. Florian, je te donne la parole d'abord, honneur aux invités. Qu'est-ce que tu as pensé de ce... Alors, comment il l'appelle déjà ? Surface Laptop Studio, c'est ça, Surface Laptop Studio. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce truc ?
Pour moi, c'est une vraie Surface au sens où Microsoft, avec sa gamme Surface, essaye depuis le début de créer des ordinateurs innovants, plus puissants, pour montrer un peu le chemin aux fabricants OEM, comme on dit, de PC sous Windows. Là, c'est ce que Microsoft veut faire encore une fois, montrer que le 2-en-1, on peut le faire d'une façon pure, précise, avec un produit effectivement qui est plutôt intéressant et joli à regarder. Faut voir si ça prend. S'il y a un marché, on peut se douter que HP, Dell, Lenovo et les autres arriveront.
C'est vrai que Microsoft, avec cette gamme, essaye de montrer ce qu'il est possible de faire d'intéressant et d'innovant dans ces gammes de produits. Ouais.
Ça, c'est l'option où ça marche. Après, ça, c'est un produit très haut de gamme qui s'adresse à assez peu de monde. Hein. On parle aux graphistes surtout. Si ça marche pas, bah, ça restera une bizarrerie dans la gamme Surface, comme il y a pu en avoir d'autres.
C'est assez bien résumé, effectivement. Désolé pour les grésillements. On a eu des soucis au dernier moment. J'espère que ça ne sera pas trop gênant pour les auditeurs. Gaël, qu'est-ce que tu penses de cette bestiole? C'est un gadget qui est intéressant techniquement et c'est tout? Ou est-ce que tu y vois vraiment une utilité? Parce que c'est vrai que c'est tellement différent comme format. Je ne suis pas sûr que... Enfin, c'est intriguant, mais... Même avec le nouveau Surface Pen qui a des petites vibrations qui simulent le papier, tout ça, je me demande si ça sera vraiment, vraiment utile, quoi.
En fait, je rejoins dans l'idée. En fait, finalement, c'est vraiment ça, une Surface. C'était vraiment, finalement, ce qu'aurait dû être le produit de départ de Surface. C'est vraiment, quand tu regardes les images de présentation du produit, tu vois, ça ressemble presque à une tablette graphique, c'est incliné. Mmh. Les gens qui l'utilisent l'inclinent, effectivement, donc on voit que c'est vraiment pour des graphistes, pour des créas que c'est fait. Donc, on est au-delà du gadget, hein, vu le haut de gamme. Je trouve que c'est intéressant. Ça, je vois pas effectivement le marché derrière ça, parce que ça me paraît être assez niche. Surtout qu'on sait que les créas sont quand même plutôt plus Mac que Microsoft. Néanmoins, je trouve ça intéressant dans l'innovation. Je trouve que ça a son utilité pour ouvrir la voie pour d'autres. Pas de bol pour eux, mais effectivement, il y a d'autres qui vont venir derrière, qui vont faire des choses super derrière. Il y a de l'idée, il y a des choses qui sont sympas. Je pense qu'on n'y est pas encore, hein, sur un produit de market, mais ça ouvre une voie intéressante.
Bah, ce qui me frappe, en fait, si on prend un petit peu de recul, c'est que c'est un produit qui est un 2-en-1, enfin, même pas un 2-en-1, mais on va dire un ordinateur portable avec écran rabattable qui a une manière de rabattre l'écran qui est intéressante. Et effectivement, on peut l'incliner à, je sais pas, à 45 degrés pour faciliter le visionnage d'un film ou un truc comme ça. Et on va avoir accès au trackpad, mais plus au clavier. Pourquoi pas? Mais au final, c'est juste un ordinateur portable avec écran pivotable, intéressant dans son design mécanique, dans sa charnière, mais les fonctionnalités sont exactement celles, à peu de choses près, des autres ordinateurs dont on peut rabattre l'écran sur le clavier, qui n'ont, je crois, dites-moi si je me trompe, jamais vraiment trouvé d'utilité, d'unicité pour un public large, quoi. Je suis pas sûr qu'il fasse cet ordinateur autre chose que ça.
En fait, ce qui est dommage, c'est que ce soit vraiment du haut de gamme. Parce que
oui, on est à 1 500 dollars. On est à 1 600 dollars avant taxe pour les prix américains. Donc oui, c'est quand même un peu cher.
Avec l'inclinaison, le fait que tu puisses utiliser un stylo, etc. Moi, je trouve que ce serait un produit formidable. C'était un produit pour l'initiation, pour les enfants avec de la tablette.
Oui, non, mais c'est vrai. C'est ce à quoi tu penses tout de suite. Effectivement, ça pourrait marcher, ouais.
Mais effectivement, beaucoup trop haut de gamme, mais si c'était pas haut de gamme, la façon dont tu peux l'incliner, la façon dont c'est assez stable, la façon dont tu peux utiliser un stylet, etc. Je trouve que finalement, il devrait y avoir un modèle scolaire qui sorte de ça. Mais encore une fois, je pense que c'est de l'innovation. Hein. On est sur un truc qui ouvre une voie vers quelque chose. On n'y est pas, c'est pas ça. Mais bon, ça nous fait parler, en tout cas.
C'est ça. C'est le remplaçant
d'ailleurs.
Pardon, vas-y, Florian.
C'est peut-être le but de Microsoft, nous faire parler.
C'est pas faux, oui. Finalement, le produit n'a pas forcément besoin d'avoir une grosse utilité. C'est peut-être, on va pas dire que c'est vraiment comme un concept car qui n'a pas vocation à arriver en production. Là, on est clairement dans un produit qui va être vendu. Mais peut-être que l'idée, c'est de créer autant l'image d'innovateur et d'expertise, d'excellence de design pour Microsoft que de vraiment vendre du produit. Parce que clairement, c'est pas ça qui va leur faire leur revenu à Microsoft, la vente de matériel. Donc, oui, il y a peut-être un petit peu de ça, effectivement. Et quand on parle d'itération, c'est vrai que ce produit est le successeur du Surface Book, dont certains se souviendront peut-être. Le Surface Book, c'était cet appareil dont on pouvait, qui était un laptop, avec un aspect de, d'ordinateur portable classique, sauf que on pouvait en détacher l'écran qui devenait en quelque sorte une tablette. Et quand on repliait la version, le format ordinateur, bah, il y avait cette charnière qui était quand même, qui laissait une ouverture. Une ouverture quand donc l'ordinateur n'était jamais complètement fermé. À sa base, à la charnière, il était quand même un petit peu ouvert. Et ça, c'est un bien meilleur moyen de faire alors une partie de la même chose, puisqu'on peut pas en détacher l'écran. Hein, par contre, c'est pas tout à fait le même produit, mais c'est selon Microsoft l'évolution de ce produit. Celui-là est, je trouve, plus séduisant que le Surface Book, même s'il ne sert pas exactement la même fonction, à voir s'ils continueront à faire évoluer ces idées au-delà de juste ça. Est-ce
ça
qu'il y a d'autres choses
avec Microsoft, c'est que finalement, à chaque présentation de la gamme Surface, les produits évoluent. On le voit aussi sur les duos, entre le Surface Duo 1 et le Surface Duo 2, on se rend compte que Microsoft a pris un peu les choses au sérieux. Alors, ce ne sera toujours pas un smartphone, même s'ils n'aiment pas que je dise ça, qui va se vendre beaucoup, parce que le marché est très réduit. Il y a déjà Samsung sur la place en plus. Mais on voit quand même qu'ils ont envie d'aller dans cette direction-là, que le produit évolue et que Microsoft se donne les moyens d'arriver avec un produit compétitif par rapport à ses concurrents, au moins sur le papier. Après, on verra la distribution et le prix, la commercialisation. Mais sur le papier, il y a quelque chose.
Il y a des choses hyper intéressantes avec ce nouveau Surface Duo. Au-delà du stylet, qui est le nouveau stylet avec retour haptique qui donne la sensation du papier, comme je disais tout à l'heure, il y a, en fait, quand il est refermé, l'écran, l'un des écrans dépasse un tout petit peu. On peut le voir, en fait, du dos de la machine, de la charnière, donc le dos fin. Et donc, on peut avoir des informations qui sont diffusées quand l'appareil est fermé par ce bout d'écran qui dépasse, qu'on voit à peine, qui fait, on va dire, 2 mm d'épaisseur et qui est une façon assez intelligente d'utiliser ce type de format, on va dire. Là encore, je ne suis pas convaincu que ça soit un produit qui soit un produit killer qui va se vendre à des millions d'exemplaires. Mais c'est clairement un terrain de jeu, enfin ça ressemble à un terrain de jeu pour Microsoft qui essaye des choses et qui peut-être à un moment tombera sur un concept qui fera mouche. Comme je le disais tout à l'heure, le Surface Duo est nettement amélioré au niveau logiciel et au niveau matériel, notamment au niveau des caméras qui sont pour le coup des caméras très très correctes, là où elles étaient vraiment faibles sur le premier modèle. Là aussi on est sur un appareil qui est cher, hein, on est à $1,500 aux États-Unis, donc on peut imaginer pas très très loin des 1800 en France. Bon, c'est pour un, entre guillemets, un petit gadget, ça fait cher du gadget, quoi. Et là, contrairement au Fold de Samsung, on est sur vraiment deux écrans complètement séparés. Donc, c'est pas exactement le même produit, mais ça reste cette idée de gagner en productivité en ayant un écran plus grand quand il est ouvert et en ayant deux écrans qui vont interagir pour le mail, pour le visionnage de vidéos, etc. On peut faire deux choses séparées sur les deux écrans. Autre chose qui vous a marqué dans cette présentation, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, mais... S'il y a autre chose, c'est le moment de m'arrêter.
Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est le kit de stickers pour l'accessibilité.
Pouvoir marquer
son clavier sur certaines touches. Et du coup, visiblement, les personnes qui voient mal... se repère plus facilement en fait sur le clavier. Je trouvais ça, c'était une très bonne idée.
Oui, mais ça va même plus loin que ça. Honte à moi, j'ai pas inclus de lien dans les notes de l'émission. C'est le Accessibility Pad ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est un ensemble de stickers qu'on peut tout associer aux touches d'un clavier pour les reconnaître plus facilement. Mais c'est aussi des choses qu'on va pouvoir attacher au câble et au port d'un ordinateur pour pouvoir savoir sans les voir quel câble va où et ce genre de choses. C'est un truc tout bête, hein. C'est juste une feuille avec des stickers qui sont tactiles, qui sont en relief, qu'on peut coller sur ces appareils. Et c'est un truc tout bête qui, j'imagine, hein, bon, moi, j'ai pas moi-même l'expérience de ce genre de choses, mais j'imagine qu'il peut rendre de grands services à beaucoup de gens. J'imagine aussi qu'ils ont déjà ce genre d'astuces par ailleurs, hein, et peut-être même que c'est des choses qui se vendent pour faciliter l'utilisation dans ce genre de conditions. Mais c'est pas bête que Microsoft s'engouffre dans la brèche. Ils ont fait pas mal de choses au niveau de l'accessibilité, notamment dans le jeu vidéo, avec une manette à laquelle on peut attacher des boutons et des contrôleurs de toutes formes différentes qui permettent de contrôler la console Xbox ou le PC beaucoup plus efficacement quand on a une mobilité qui est un peu réduite. Donc tu fais très bien de le signaler, merci Florian. L'autre chose dont j'aimerais parler maintenant, c'est l'ordinateur portable Framework, qui a fait un petit peu de bruit cet été et qui est désormais disponible à l'achat aux États-Unis. Et c'est un ordinateur portable qui est hyper intéressant parce que il fait quelque chose dont on pensait que c'était peut-être... Alors moi, je vais être complètement honnête, je pensais que c'était pas possible à faire comme ils le font. On parle de réparabilité des appareils depuis très longtemps et l'industrie va de plus en plus vers des ordinateurs tout intégrés, tout glués entre eux, avec des pièces qui sont difficiles à enlever et à changer. Et là, cet ordinateur est... Alors, ils se sont lancés il y a peu de temps. Hein, c'est vraiment une boîte qui commence à peine. Cet ordinateur est un ordinateur qui peut être vendu en kit ou déjà assemblé, qui est évidemment possible pour un ordinateur de bureau, mais là, on parle d'un ordinateur portable, et qu'on peut assembler soi-même dans une certaine mesure, et donc démonter, changer des modules et réparer soi-même. Alors, on ne peut pas tout changer. Hein. Il y a le cœur de la machine, donc la carte mère, le processeur et je crois que c'est tout d'ailleurs, qui sont soudés et donc qu'on ne peut pas changer. Mais par contre, tout ce qui est RAM, évidemment, clavier, écran et morceaux attachés par USB, en fait, il y a des petits modules qu'on va enclencher, qu'on va ajouter à l'appareil et qui vont vous donner vos ports USB de différents, enfin vos ports de différents types, que ça soit USB ou autre chose. Et il est extrêmement facile à ouvrir et à réparer, et il est pensé pour ça en fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est hyper intéressant. C'est une chose qui semblait, et l'aspect le plus important, c'est que il est extrêmement léger, petit et compact. Il ressemble vraiment à peu de choses près à un ordinateur. Encore une fois, je vais faire référence au MacBook Pro, mais la plupart des ordinateurs ressemblent un petit peu à ça aujourd'hui. Eh ben, il ressemble à ça. C'est pas que pour avoir une modularité, eh ben, on va devoir sacrifier la taille et le design. Donc, c'est ça qui est vraiment impressionnant. Et encore une fois, on peut pas tout changer. La carte mère et le processeur sont soudés, si j'ai bien compris. Mais on peut même changer l'écran, on peut changer le SSD, on peut changer la RAM, on peut changer les modules qui sont de connectivité. Donc, que ça soit du HDMI, du DisplayPort, de l'USB en plus, etc. Et on peut également enlever le clavier, le changer et surtout, comme tout ça est facile à ouvrir, on peut le réparer très facilement. Donc, c'est un peu un rêve de geek et puis surtout de principe de se dire bah, il faudrait qu'on puisse réparer nos ordinateurs tout seul. Et comme je le disais avant de lancer l'enregistrement de l'émission, j'en ai discuté très enthousiaste sur le Discord de la communauté qui est accessible sur notepatrick.com. Vous avez un lien vers ça. Et en fait, certains membres du Discord m'ont un peu douché en me disant « Oui, c'est cool, c'est super sympa qu'on puisse le faire, mais à qui ça s'adresse ? Qui va vouloir un ordinateur de ce type-là » Et en prenant donc un petit peu ce recul, je me suis dit « Ils ont peut-être pas tort. Oui, on peut changer la batterie, ok, super, mais qui a envie de le faire au final ? C'est plus une question de principe qu'une question de practicité. » Du coup, je me retourne vers vous deux, et maintenant je vais donner la parole d'abord à Gaël peut-être. Est-ce que c'est un ordinateur pour lequel tu vois un avenir ou il y a quelque chose d'intéressant ? où c'est un exercice, disons, impressionnant, mais au final, peut-être un peu futile.
Après, je pense que c'est peut-être la même chose que pour Microsoft, en fait. C'est peut-être pas celui-là qui est le bon. C'est peut-être pas le bon modèle et c'est peut-être pas lui qui va réussir à se vendre. En revanche, je trouve que ça va dans une démarche super intéressante et vraiment très, très, très tendance.
Attention dire... à pas toucher ton micro, Gaël, s'il te plaît.
Pardon, excuse-moi. Qui est très tendance, qui est de dire on arrête d'acheter tout le temps tout nouveau, tout neuf, ouais. Et au contraire, on est plutôt dans l'écologie, et l'écologie veut dire aussi réutiliser, ne pas tout jeter, ne pas gâcher, etc. Et je pense que du coup, les nouvelles générations seront très tentées par ce type de choses et iront vers les marques, alors peut-être pas eux, mais en tout cas vers des marques qui proposeront ce genre de choses. Et au-delà, en plus de l'aspect écologique, il y a peut-être aussi l'aspect économique. Et on a peut-être marre de redépenser à chaque fois des milliers d'euros pour changer quelque chose dans un ordinateur, alors que fondamentalement, l'ordinateur, il fonctionne. Tu as juste envie de l'upgrader, mettre un peu plus de choses dedans et en fonction de ton usage. Donc, encore une fois, celui-là, je ne saurais pas te dire, parce que je ne le connais pas suffisamment pour dire c'est lui qui va changer le marché. En revanche, je trouve que la tendance est la bonne et ça va, ça ouvre encore de nouvelles perspectives qui me semblent être celles qui sont attendues, en tout cas, par les nouvelles générations.
C'est intéressant ce que tu dis, effectivement, parce qu'il montre en le faisant qu'il est possible de le faire. Et les autres constructeurs, s'ils ne le font pas, c'est sans doute un manque de volonté. Alors après, moi, je vais pas ici leur prêter des intentions néfastes du genre bah, on fait pas ça, on rend pas ça réparable comme ça. Les gens vont en acheter un nouveau entier à chaque fois qu'ils vont vouloir changer d'ordinateur. Peut-être que ça joue un peu au final, mais c'est vrai que surtout, il montre que c'est possible. Après, est-ce que les gens le veulent ? Bah, je vais poser la question à Florian également. Au final, si le monde s'est dirigé vers des ordinateurs portables, on a une commoditisation de ce type d'ordinateur, est-ce que c'est pas parce que le public veut un truc, bah on achète, c'est tout en un, ça, on l'allume, ça marche, et puis on n'a pas à s'emmerder à ouvrir et à réparer ce genre de truc ?
Ah bah, très clairement, c'est pour ça que moi, j'ai pas envie de m'emballer sur ce framework laptop. Dans les smartphones, on a aussi l'exemple des Fairphone, par exemple. Pareil, sur le papier, oui, tout le monde a envie d'un téléphone respectueux de la planète. Et on peut se dire que ça va marcher. Dans les faits, c'est un acte de foi de s'équiper d'un Fairphone.
Bon, il faut avouer qu'il a des gros soucis annexes, le Fairphone, avec des questions de mise à jour de l'OS, etc. Là, on tourne sous Windows, donc c'est pas 100, je comprends l'analogie, mais c'est pas 100% la même chose.
Alors, OK sur la question de l'OS, mais il y a cette idée d'avoir du matériel informatique qui, en fait, porte une idée, parce qu'une idée
ouais, presque philosophique,
sur, ouais. Voilà, sur comment le monde doit se comporter. Le marché, il répond pas du tout à ça, en tout cas. Pour reprendre ton exemple, est-ce que les consommateurs, ils ont envie de changer leur batterie ? Moi, souvent, je suis encore à expliquer la différence entre USB et USB-C. Donc, savoir qu'on peut changer le port comme on veut, pas sûr que ça intéresse beaucoup. Cela dit, l'idée est géniale. Enfin, il faut voir les chiffres. Je pense que le monde et le monde de l'informatique a besoin d'ordinateurs que l'on jette moins. Il y a 4,7 millions de tonnes de déchets électroniques qui sont générés par l'humanité uniquement sur tout ce qui est smartphone, PC et imprimante. C'est les chiffres de l'ONU, ça. On voit bien ce que ça coûte de changer son téléphone tous les 2-3 ans et son PC tous les 4-5 ans. C'est pas normal de devoir changer un PC parce que la batterie ne fonctionne pas. Si c'est que la batterie, on change la batterie. Normalement, ça devrait se passer comme ça. Mais effectivement, c'est pas le cas. Donc, c'est très bien que le framework laptop existe. Maintenant, il faut que les autres marques prennent le pli, qu'elles éduquent sûrement aussi les consommateurs sur ces questions-là. Prennent pas tout ce chemin-là. Il y a l'indice de réparabilité qui existe depuis quelques mois maintenant, qui est obligatoire à l'affichage en magasin et sur les sites web. les marques de PC affichent plutôt des bonnes notes, mais elles n'ont pas vraiment changé leur pratique. Et quand on discute un petit peu en off avec les chefs de produits de ces marques-là, oui, ils pointent tout de suite la contradiction entre l'innovation et changer de méthode. Pour eux, ils ont besoin d'un ordinateur tous les 3 ans et de justifier des nouveautés tous les 3 ans. C'est le business model qui est comme ça.
Justement, on va peut-être en parler dans un petit instant de cet aspect aussi, mais c'est vrai que il faut noter tout de même que tout le monde n'est pas aussi restrictif. Enfin, tous les constructeurs sont pas aussi restrictifs qu'Apple. Sur plusieurs laptops, on peut changer au minimum la RAM, peut-être même faire changer la batterie plus facilement. Ce genre de choses, ça existe. C'est ce que tu disais, ce qui me fait peur au final, vraiment dans cette idée, c'est que ça répond à une envie d'une théorique, mais que dans la pratique, c'est pas ce que demandent les gens. Quand tu dis c'est pas comme ça que fonctionne le marché, c'est que c'est pas ce que les gens veulent. Maintenant, c'est peut-être une étape importante que on voit que c'est possible et que ça puisse générer ensuite des envies, des demandes. C'est pour moi quand même une étape importante, même si, imaginons la pire des situations, il se plante complètement, eh ben, il faut qu'on voit ce que ça peut donner. Et c'est très impressionnant qu'ils aient réussi à faire ce type de design avec un appareil qui, encore une fois, reste d'une taille tout à fait comparable aux ordinateurs les mieux designés du marché. Et c'est leur premier modèle. Donc, ils commencent à $1,000,000. Donc, c'est même pas complètement hors de prix. Bon, on verra. Si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'on fait un bon boulot, vous pouvez faire deux choses. Soit, rien du tout, et donc vous écoutez l'émission, et puis il y a les pubs, et c'est très cool, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, entre parenthèses, on va, comme j'en parlais il y a quelques semaines, il y aura une petite interruption pub au milieu de l'émission, jusqu'à la fin de l'année, on teste ça, je vais voir si c'est super gênant ou pas, n'hésitez pas à venir me le dire, ça sera limité à 1 minute, a priori, donc ça vous pouvez me dire si ça vous gêne ou pas. Et le petit passage que je fais maintenant, où je vous parle du Patreon, sera aussi à peu près, on va dire, limité à 1 minute, ce qui fait qu'au final, avant, je parlais à facile 3 minutes pour vous parler du Patreon. Eh ben, ça sera moins long avec la pub que ça ne l'était avant sans. Donc, j'espère que ça vous conviendra. Mais il n'empêche, si vous appréciez l'émission et que vous voulez soutenir l'émission et en plus, accessoirement, passer à un flux qui n'a pas de pub et qui en plus a des contenus bonus et qui en plus vous fournit le plaisir et la fierté de vous dire que vous soutenez cette émission et que vous soutenez un contenu différent, alternatif, indépendant, vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Et comme je le disais, le plus grand bonheur que ça vous donne dans tout ça, c'est le fait que vous vous dites je suis une partie de la communauté qui soutient cette émission et qui lui permet d'exister. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon. Le lien est dans les notes de l'émission.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
L'USB-C. On parle d'innovation un petit peu. Florian y faisait référence. Alors, je vais faire un petit résumé de ce qui se passe au niveau de l'USB-C en Europe. On a depuis un certain temps l'obligation d'avoir des chargeurs qui sont uniformisés pour les téléphones en Europe. Et ils doivent être des chargeurs qui fournissent un câble, un connecteur USB-C. Par contre, ça ne s'appliquait pas, ça ne s'applique pas aux téléphones eux-mêmes. C'est pour ça que Apple s'en sort, même s'ils n'ont pas sur leur téléphone des ports USB-C. Ils s'en sortent en donnant un petit adaptateur USB-C vers Lightning, qui est leur port propriétaire, et ils n'ont pas besoin de mettre sur leur téléphone eux-mêmes des ports USB-C standardisés, qui sont devenus le standard du reste de l'industrie. L'Europe est en train de réfléchir à la possibilité, à l'horizon 2024, donc c'est pas pour tout de suite, la possibilité d'imposer le port USB-C, non plus seulement sur les chargeurs, mais également sur les téléphones. Donc d'imposer à ce que tous les téléphones, et à vrai dire ça va un petit peu plus loin, c'est tous les petits appareils électroniques, on va dire, que tous ces appareils utilisent le même standard, le même port standard USB-C. Évidemment, la société la plus touchée par un tel changement serait Apple, qui est encore en train d'utiliser son port propriétaire, le Lightning, qui a sur certains appareils de l'USB-C. On imagine qu'à terme, peut-être qu'ils vont passer à l'USB-C partout de toute façon. Mais cette idée a vraiment des avantages et des inconvénients. Je comprends les deux côtés de la discussion, vraiment. Il y a un intérêt évident à standardiser la chose, à faire en sorte que les consommateurs aient simplement un port, un type de câble, un type de chargeur. Bon, les chargeurs, c'est déjà le cas, hein, c'est plus vraiment problématique à ce niveau-là. Le chargeur, c'est déjà le cas, c'est uniquement de l'USB-C. Mais avoir un port sur les téléphones, je comprends l'aspect pratique et l'aspect, c'est moins de confusion. Par contre, quand Florian parlait d'innovation tout à l'heure, je crois qu'il y a vraiment une question qui se pose là aussi, et je me fais un tout petit peu l'avocat du diable, mais j'ai pas besoin de me forcer, parce que ça me fait un petit peu peur de se dire on va figer les choses à l'USB-C. Il y a une dizaine d'années, je crois que c'est Julien Cadeau de Numérama qui tweetait ça, l'Europe réfléchissait à la possibilité de standardiser avec le port micro-USB. Et le port micro-USB, on se souvient que bah, c'était pas vraiment idéal. L'USB-C, il est cool, mais à l'époque, on se disait bah, on va voir le micro-USB pour tout le monde. Et le micro USB, c'était vraiment pas un bon port technologiquement au niveau du format, etc. Il était pas vraiment bon. Et l'USB-C est arrivé et s'est généralisé au final, sauf Apple, ce qui est pas un détail, mais enfin c'est presque un argument. On a en gros quasiment tout le monde utilise l'USB-C. Et c'est arrivé naturellement. L'USB-C a été créé par un besoin de l'industrie de standardiser les choses. Et il s'est généralisé à 90% des constructeurs sans que la loi ne l'impose par un besoin naturel, en fait, du marché. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est que on pourrait un petit peu figer l'évolution technologique en disant bah maintenant c'est de l'USB-C. Alors ça ne veut pas dire que les groupes de travail de l'industrie vont tout à coup arrêter de travailler à des standards différents. Évidemment que non. Mais si l'USB-C est imposé, au moins en Europe, peut-être même que ça va l'imposer à d'autres endroits aussi, peut-être qu'ils vont se dire « bon, c'est bon, on a l'USB-C, on ne va pas s'emmerder à essayer de faire autre chose » ou « ils vont aller plus lentement » ou ce genre de choses. Donc, c'est presque sur le principe que la question se pose, à mon avis, est-ce que ça serait bénéfique ou pas, vu qu'on est arrivé à cet USB-C sans régulation et qu'on aura peut-être d'autres choses après. Entre parenthèses, si le téléphone est à chargeur sans fil, ça ne s'applique pas. Enfin, s'il y a un chargeur, s'il y a un port, il faut que ça soit un port USB-C. Mais s'il y a, par exemple, comme on a des rumeurs depuis longtemps, un téléphone sans port du tout du côté d'Apple, eh ben, ils ne sont pas obligés d'en ajouter un pour le principe. Si c'est chargeur sans fil, bah, ça reste chargeur sans fil. Qu'est-ce que vous en pensez, Gaël? Je vais te poser la question comme ça, de manière complètement définitive. C'est souhaitable ou c'est pas souhaitable une régulation de ce type-là?
Puisque tu me poses une question fermée, je vais te répondre par une réponse fermée. Non, ce n'est pas souhaitable.
Ah, très bien. Alors, écoute, tu m'aurais dit oui, je serais passé à quelqu'un d'autre parce que je suis clairement maléfique et je ne veux pas entendre les arguments pour. Mais si tu me dis non, je te demande pourquoi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas souhaitable?
mais pour ce que tu viens de dire exactement, c'est de dire effectivement, c'est régulé, n'a pas de sens, et ça limite les choses, les choses se régulent d'elles-mêmes, ça prend peut-être un peu de temps, mais c'est fermé à l'innovation, c'est fermé à beaucoup de choses, et je trouve qu'il y a d'autres, choses à réguler avant que les choses.
Oui, d'autres choses à réguler avant, c'est une bonne chose à noter, parce que je crois que beaucoup de gens ont réagi de cette manière, et encore une fois, dans le Discord, on en a parlé aussi, et il y a des gens qui me disaient « Ah, mais écoute, Patrick, pourquoi est-ce que t'es contre ? Il y a plein de domaines qui ont plein de régulations, et ces régulations peuvent évoluer. Il y a des gens qui parlaient du bâtiment, d'autres qui parlaient d'autres types de produits. Et pourquoi est-ce que la tech ne serait pas régulée ? » Mais c'est un argument un peu fallacieux, je trouve, parce que c'est pas vrai que la tech est pas régulée. Il y a plein de standards pour plein de choses sur la manière dont on peut les produits qu'on peut utiliser, la manière dont on peut construire les choses. Il y a plein de régulations au niveau européen. Mais là, ça touche à quelque chose de différent, je trouve. Enfin, les plastiques, on peut pas faire n'importe quoi. Il y a des normes européennes pour l'électrique partout. Non, mais tu peux pas
comparer le bâtiment, le plastique, qui sont des choses qui évoluent quand même beaucoup plus lentement en termes de normes et en termes d'innovation, alors que la technologie, ça innove tellement vite, ça va tellement vite, que la régulation ne suit pas. Si la régulation était capable de s'adapter rapidement et innover et suivre les innovations, il n'y a pas de problème, mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc c'est ça qui pose problème. Alors, tu peux pas comparer les secteurs comme ça.
Je vais te dire deux choses, du coup. D'une part, bah, peut-être qu'on peut faire évoluer la chose rapidement, même au niveau de l'administration. J'avoue que, d'une manière générale, l'administration est bonne pour plein de choses. Faire évoluer les choses vite, c'est designé contre ça, en fait. Mais bon.
On n'y est pas encore. Ça viendra, peut-être.
Mais au-delà de ça, je vais du coup me faire l'avocat du diable de l'avocat du diable. Je retourne ma veste après l'avoir retournée une première fois. Est-ce que c'est pas souhaitable qu'on ait un ralentissement de cette innovation et qu'on se dise, bon, bah écoutez, ça va, on n'a pas besoin, comme le disait Florian tout à l'heure, on n'a peut-être pas besoin, et tu le disais toi-même à propos du framework, du laptop, on n'a peut-être pas besoin de changer d'ordinateur tous les 4 ans et de téléphone tous les 2 ans. Bon, si l'innovation ralentit, est-ce que c'est la fin du monde, quoi ?
Gaëlle ? J'ai envie de dire, non, je réfléchis à la question, parce que elle n'est pas facile, ta question.
J'ai réussi à faire réfléchir les gens, c'est déjà pas mal.
Non, mais fondamentalement, évidemment. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de ralentir l'innovation ? Après, ça, c'est pas parce que tu innoves que tu es obligé de... Les gens ne sont pas obligés d'acheter. Et justement, l'innovation peut permettre aussi la récup d'une certaine manière. Donc, en fait, c'est juste le principe, encore une fois, c'est juste le principe de réguler sur des choses qui n'ont pas forcément, ne sont pas fondamentales, qui peuvent ralentir les choses. Après, je suis pas archi contre non plus, hein.
Ouais, je comprends.
C'est une question fermée, donc.
Je vais faire la prochaine étape, c'est faire des clashs sur Twitter.
Je penche plus vers le non que vers le oui. Voilà, mais après, je suis pas fermée.
Florian, est-ce que tu es aussi, tu penches un peu plus? Non, mais c'est bien, t'as raison. J'ai essayé de te coincer et tu t'en es sorti, c'est bien. Florian, est-ce que t'es aussi un petit peu plus vers le non que vers le oui, ou le contraire, ou aucun des deux?
Effectivement, je suis assez mitigé sur l'idée de réguler sur l'USB-C, le Lightning ou autre. En fait, par principe, on ne sait pas où va l'innovation. Et effectivement, brider cette innovation, on peut se dire qu'elle va trop vite. Mais peut-être que dans 5 ans, on aura une nouvelle technologie qui sera plus économe en énergie et on aura gagné. Donc, on ne sait pas. Donc, c'est sûr que fixer des règles comme ça, gravées dans le marbre, et effectivement, ça va être très compliqué de les réécrire très régulièrement, c'est plutôt dangereux. En vérité, moi, quand j'ai lu cette actualité, je me suis dit, ouais, c'est un tapis rouge pour Apple pour passer au sans fil. Apple aura clairement intérêt à passer là-dessus. Et toutes les marches qu'il faisait avec les ports Lightning et les adaptateurs, il se sera transféré sur les chargeurs sans fil d'Apple. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. On aura juste une nouvelle fois la preuve que la régulation était en train en retard par rapport à la technologie. Voilà, c'est effectivement pas la meilleure chose à faire. Dans d'autres domaines, cet écueil avait été évité par l'Europe pourtant. Par exemple, sur tout ce qui est réglementation sur les données personnelles, ou sur le texte en préparation sur l'IA, il y a un parti pris qui est on ne fixe pas de technologie. On donne des principes.
On fixe des principes, ouais.
Et on ne parle pas de technologie parce qu'on sait que ça va être dépassé dans, dans quelques années. Pour ce, ouais. ce coup-là, ce n'est pas ça qui a été fait.
Moi, ce qui, au final, je crois que ce qui me... Je pense qu'on est tous, il ne faut pas qu'on caricature, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire, et on en parlait au moment du laptop framework, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des soucis de déchets et qu'il y a qu'il faut faire évoluer dans le bon sens à ce niveau-là. Mais je me demande, par exemple, on a déjà cette régulation sur les chargeurs qui est établie. Donc le gros des, enfin les chargeurs sont tous aujourd'hui en USB-C. Et quand on parle de chargement de batterie, bah on est tous d'accord pour dire oui, on peut utiliser un chargeur en USB-C. Peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, il y aura un autre type de chargeur et on pourra passer à autre chose. C'est moins gênant. Et donc, pour les déchets, je pense que je ne suis pas... Peut-être qu'on pourra me prouver le contraire, mais je ne suis pas convaincu que le fait d'éliminer par principe les téléphones avec port Lightning, je ne sais pas très bien l'effet que ça va avoir sur le réchauffement climatique, parce que au final c'est de ça qu'on parle, enfin le réchauffement, la consommation, je veux dire, on pourra, imaginons que demain Apple mette des ports USB-C sur tous ses téléphones, au-delà du fait que ça soit un petit peu plus pratique et on aura peut-être un type de câble différent, ok, on va quand même vendre les mêmes téléphones, on va quand même avoir les mêmes chargeurs qu'on a maintenant. Je crois que les faits, au-delà
du fait de dire,
là, Apple s'est fait damer le pion par l'Europe, c'est bien fait pour leur gueule, je vois pas vraiment, peut-être que je me trompe, hein, mais je vois pas un gros effet.
La différence, c'est que tu pourras garder ton chargeur, le chargeur que tu as aujourd'hui, le câble que tu as aujourd'hui, tu pourras l'utiliser sur ton téléphone de demain.
C'est déjà le cas.
Tu en rassurer certains. Tu rachèteras pas un nouveau câble.
Non, mais oui, bon, le câble, disons que, oui, le câble. Enfin, aujourd'hui, on a effectivement, peut-être qu'on pourra du coup vendre absolument tous les téléphones sans câble et sans chargeur, ce que, entre parenthèses, Apple fait déjà. Ils ont été les premiers à vendre sans chargeur et on leur a parfois reproché. Je dis pas qu'il y aura zéro effet, hein, bien sûr, mais je sais pas. Bon. Écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur Twitter, par exemple. Venez nous dire qu'on a été absolument d'infâmes pro-technologie par principe et qu'on ne voit pas les bienfaits plus vastes d'une telle réglementation. Bon, je rejoins quand même, je fais un petit détour pour rejoindre Gaël et j'ai l'impression Florian aussi. Je suis pas fondamentalement contre par principe, c'est juste que j'ai quelques réserves à émettre, on va dire. Parlons un peu des Facebook Files, tiens, on les a évoqués ces dernières semaines et c'est vraiment un gros morceau. J'en avais parlé à plusieurs reprises et j'en avais notamment parlé sur ma veille sur le compte RDVTech sur Twitter parce que ça sentait le gros truc et effectivement, c'est une série d'enquêtes du Wall Street Journal qui a révélé des documents internes de Facebook sur des études qu'ils ont faites et qui ont donné des résultats qui n'étaient pas toujours très favorables à Facebook, voire en général plutôt défavorables, avec des histoires comme le fait que celui qui a fait le plus de bruit, les effets d'Instagram sur les jeunes, et notamment sur les jeunes femmes, étaient néfastes, et Facebook avait des enquêtes qui prouvaient la chose, ou des études qui prouvaient la chose, et n'a rien fait. Il y a une série de 4 ou 5 articles sur des domaines différents, sur WhatsApp, sur Facebook lui-même, sur Instagram. Le fait, par exemple, que ça fait pas partie des Facebook Files eux-mêmes, mais Facebook aurait payé 5 milliards de dollars pour pas disparaître, mais pour régler l'affaire Cambridge Analytica avec l'administration américaine. Alors que s'il n'avait, enfin, pour ne pas faire témoigner Mark Zuckerberg, alors que s'ils avaient voulu le faire témoigner, ils auraient pu payer genre 20 millions de dollars, un truc ridicule comme ça. Et Facebook a payé tout ça pour que Zuckerberg n'ait pas à témoigner. Alors peut-être qu'en faisant témoigner Zuckerberg, leur idée c'était de faire cracher plus d'argent à Facebook et que donc ils l'ont eu comme ça, mais ça sent pas bon. Déjà que Facebook n'était pas vraiment en odeur de sainteté. Ça sent vraiment pas bon. Et avec cette série d'enquêtes du Wall Street Journal, qui est extrêmement visible chez des gens extrêmement influents, ça a donné, selon certains, un scandale qui est le plus dommageable pour Facebook depuis justement l'affaire Cambridge Analytica. Et ça donne lieu à des enquêtes du Parlement américain, on parlait d'Instagram tout à l'heure, et d'une manière générale, ça a fait remuer un petit peu tout ça, et le public et les sphères politiques s'intéressent beaucoup plus à Facebook encore qu'avant. C'est vraiment un gros morceau, il y a des conclusions intéressantes qui en sont tirés. Facebook a bien sûr essayé de répondre et de présenter sa version des choses sur ces études qui ont été révélées par le Wall Street Journal. Ce que je retiens, moi, des réponses de Facebook, c'est une chose que des gens comme Casey Newton ont fait remarquer, ou Alex Kranz, c'est que Facebook, ils ont beau donner leur interprétation des études, et ben, tant qu'ils ne donnent pas les données de ces études, on ne peut pas leur faire confiance et on ne peut pas en tirer quelques conclusions que ce soit. Il faudrait qu'ils rendent publics ces études et les données pour qu'il y ait un minimum de discussion sérieuse sur ces sujets. Et au-delà de ça, à vrai dire, ça remet encore sur le devant de la scène un truc dont je parle quasiment toutes les semaines, c'est le fait qu'il faut des études indépendantes sur les effets de Facebook et que Facebook arrête de bloquer les scientifiques qui essayent de faire ce genre d'études. Mais ça, c'est encore autre chose. Il faudrait au minimum que Facebook rende public ces études qu'ils ont fait en interne, parce que de toute façon, ça va sortir. Il y a des sénateurs qui ont dit « on a les données en question et la personne qui les a livrés, qui fait sans doute partie de Facebook, va en parler publiquement à un moment. Donc, ça va sortir. Il faudrait que Facebook le publie et qu'on puisse en parler ouvertement et qu'on ne passe pas par les interprétations du Wall Street Journal et les interprétations de Facebook. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Il y a deux réflexions un petit peu plus grandes qui ont été issues de cette atmosphère de discussion. C'est Gilad Edelman qui dit il faudrait, à l'intérieur des grandes sociétés de la tech et en particulier des réseaux sociaux, créer une sorte de mur de protection entre le financier et, entre guillemets, l'éditorial, de la même manière que ça existe dans les publications de presse et quand on parle de l'éditorial chez les réseaux sociaux, c'est par exemple ceux qui établissent les algorithmes. Donc il faudrait qu'il y ait vraiment une séparation de principe qui se fasse entre les intérêts financiers et les intérêts du produit pour que ce produit puisse évoluer sans être l'esclave de l'intérêt financier. Et ça paraît idéaliste comme ça, mais quand on prend l'exemple de la presse, ça peut être cohérent. Et une autre idée qui est ramenée sur le devant de la scène par Cory Doctorow, c'est l'idée de l'interopérabilité dont on a déjà parlé régulièrement, mais qui dit ça sert à rien d'aller faire des lois partout sur chaque petit détail qui va s'appliquer à un moment mais plus à tel autre moment. Ce qu'il faut, c'est une interopérabilité maximum entre les différents services de manière à ce qu'il y ait une véritable compétition qui soit ramenée. Et c'est ça qui peut régler nos problèmes qu'on a dans beaucoup de domaines de la tech. Alors, c'est deux idées qui sont vraiment intéressantes, qu'on pourrait discuter, mais qui sont pour moi les idées les plus intéressantes qui sont ressorties de toutes ces discussions. La chose qu'on retient malgré tout, c'est que les Facebook Files, c'est quand même très très gros pour Facebook et ça sent vraiment pas bon. J'imagine que tu y as prêté une attention particulière, Florian. C'est quand même un gros morceau, ces Facebook Files, je pense.
Effectivement, c'est quand même des pépites. Le premier article qui avait été publié par le Wall Street Journal expliquait quand même qu'il y avait le Facebook pour l'élite et puis le Facebook pour les autres. Ouais. Apparemment, les gens riches, célèbres et puissants ont le droit de publier des photos qui ne seront modérées que beaucoup plus tard, même si elles sont abjectes, appel au harcèlement ou autres. Alors personne ne sait qui est dans la liste, même ceux qui sont dedans. On peut toujours espérer qu'on y soit. effectivement, il y a pas mal de choses dans ces Facebook Files et ça a des conséquences. Hier, lundi, on a donc vu Facebook mettre en pause son projet d'Instagram pour les enfants. Ouais. Donc l'expression mettre en pause, c'est de Facebook. Ils ont envie de continuer par la suite. Mais en tout cas, vu les révélations du Wall Street Journal qui expliquent que Facebook est au courant qu'une adolescente sur trois de plus de 13 ans a un problème d'estime de soi en raison d'Instagram, on imagine ce que ce serait sur les moins de 13 ans. donc effectivement, ouais. La décision a été prise par Facebook de prendre du recul sur son Instagram Kids, qui était un vrai business hein, pour,
bien sûr,
pour
oui.
Facebook. Derrière, bah, c'est les internautes de demain. Et c'est aussi une façon de rivaliser avec TikTok qui commence à l'embêter pas mal.
Ouais, ils ont 1 milliard d'utilisateurs TikTok qu'ils viennent d'annoncer d'ailleurs. Donc vraiment, c'est ouais. météorique. Mais c'est marrant parce que
c'est pas anecdotique comme décision que Facebook ouais. mette en pause Instagram Kids. Et ça, c'est effectivement en raison des Facebook Files.
Complètement. Et puis il y a des conséquences, on en parlait, des conséquences légales, législatives, avec des convocations devant le Sénat, etc. Enfin, devant le Congrès. Il y a aussi un élément que je voudrais, sur lequel je voudrais appuyer une nouvelle fois. Sur cette question spécifique de l'étude sur Instagram, Facebook a présenté sa version des choses. Ils ont dit, ah, mais non, regardez, il y a 12 points différents et seulement un d'entre eux est négatif et Wall Street Journal n'a parlé que de celui-là. Mais encore une fois, ils n'ont pas rendu public les données de cette étude ou l'étude tout court. Et donc, ça ne veut strictement rien dire. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi, je ne peux pas leur faire confiance. Si on voit l'étude et que des personnes indépendantes leur...
Pardon, quand bien même il y aurait un seul point négatif, quand on parle de l'estime de soi des adolescentes, donc de tout ce qui peut arriver derrière en termes de déprime, voire de dépression d'adolescentes, c'est un gros point négatif quand même, même si on
oui, c'est sûr. Justement, Gaël, toi, c'est un truc que tu connais un petit peu, l'utilisation des réseaux par les adolescents. On n'est pas obligé de rester uniquement sur la question des adolescents, mais d'une manière générale, ça sent pas très bon pour Facebook, tout ça. Bon, ça les empêche pas de continuer à faire beaucoup, beaucoup d'argent et d'être présents partout dans le monde et sur, ils ont combien, 2,7 milliards d'utilisateurs, quelque chose comme ça, je crois. Mais c'est j'imagine que Facebook est plus en odeur de sainteté depuis un moment dans les communautés des parents et de l'éducation, mais peut-être que je me trompe, peut-être que ça c'est des préoccupations de technophiles et qu'en fait les vrais gens sont un petit peu loin de ça. Qu'est-ce que tu en retires de toute cette histoire des Facebook Files?
Bah déjà, la première chose quand même qui est plutôt positive, c'est que grâce à la presse, ça a un impact grâce à ce qu'a sorti le Wall Street Journal, qui a fait superbe travail, bah effectivement, Instagram Kids s'arrête.
Oui, pour toi, c'était une très mauvaise idée à la base, Facebook, Instagram Kids.
Oui, c'est, enfin, voilà, c'est sans avoir lu d'études, on le voit bien dans les écoles, effectivement, l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur l'estime de soi, sur le harcèlement, sur les problèmes de démocratie, encore une fois, hein, parce que bah, y a pas, l'éducation aux médias est toujours pas assez bien implantée dans les écoles, donc pour eux, Facebook, et je dis Facebook, les autres réseaux sociaux de manière générale sont des médias et ils font pas la différence avec la presse et avec le travail de journaliste. Donc c'est super important bah d'éduquer à ça. Donc effectivement, si Instagram Kids commence à apparaître, là, on est, si tu veux, ça allait donner une possibilité aux parents de mettre les enfants sur Instagram. Déjà que beaucoup de parents les laissent faire avant 13 ans. Là, d'un seul coup, ils avaient la bénédiction de la société pour le faire. Et c'est tout simplement parce que les parents ne sont pas éduqués à ça non plus. Hein. Je n'ai pas la terre non plus, c'est juste une question d'éducation. Donc déjà, point positif, moi j'y vois un point positif, ça avance. Ça avance évidemment pas assez vite. Moi, je reste très étonnée et je trouve qu'en France, on n'en parle pas assez. J'ai le sentiment que nous, on en parle parce qu'on est technophile, on s'y intéresse, mais c'est pas en première page ou à la une de tous les journaux télévisés. Et pourtant, tout ce qui se passe sur les Facebook Files, pour moi, c'est un sujet tellement important et qui devrait changer beaucoup de choses. Je reste étonnée aussi sur le fait que la justice, on ne puisse pas, et là, je te rejoins sur le fait qu'il devrait y avoir, on devrait avoir accès aux données. Et je ne comprends pas, vu qu'il y a des choses quand même qui sont illégales qui se passent. On parle effectivement de l'impact sur les adolescents. Et pour élargir, il y a quand même aussi des choses qui ont été mises sur la traite des êtres humains, sur Facebook. Il y a quand même des sujets aussi forts que ça. Donc là, pour moi, ça demande quelque chose de pénal. Donc je suis très étonnée.
Au moins une enquête. Ouais.
En fait, à aller jusqu'au bout et à perquisitionner les locaux de Facebook pour avoir accès aux données. Non, mais ça se fait. Enfin, moi, quand je travaille sur Google, des perquisitions sont arrivées en France. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller faire des perquisitions dans les locaux de Facebook et dire maintenant, on veut accès aux données et on veut savoir ce qui s'y passe. Pour être honnête, je reste très surprise.
Je serais pas surpris que ça aille jusque là, parce que effectivement, là, ça commence au minimum par une enquête du Congrès. Les Facebook Files ont été publiés, je crois, ça a commencé il y a 2 semaines, hein, donc peut-être un petit peu plus, un peu moins de 3 semaines. Donc, on est quand même dans un truc qui est très récent. Mais je suis assez d'accord. Je sais plus qui le disait comme ça. C'était Casey Newton, encore lui, qui disait on est dans le plus gros scandale, la plus grande crise depuis Cambridge Analytica. Bon, en même temps, on pourrait dire, bah oui, Cambridge Analytica n'a pas changé grand-chose, donc peut-être que ça changera pas grand-chose non plus. Mais c'est pas vrai. Cambridge Analytica a beaucoup changé la manière dont on voit les réseaux sociaux, et c'était un petit peu le début où vraiment Facebook a eu une image qui a été ternie. Et là, on est dans ce type de dynamique. Donc, je crois que c'est pas la fin de toute cette histoire. On verra où ça nous amène.
C'est le début, effectivement.
Ouais. Bon, au moins, on en aura parlé un petit peu. Et comme je le disais, il y a une enquête aux États-Unis du Congrès sur cette histoire d'Instagram. Et au minimum, enfin, encore une fois, études scientifiques sur toutes ces choses. On a besoin d'études tierces. Et je le mentionne comme ça en passant, mais on commence à avoir l'habitude. On a encore vu des indices sur le fait que Facebook modifie son site, donc le code HTML du site. Je crois que je l'avais mentionné la semaine dernière, d'ailleurs, mais pour rendre plus difficile le travail des chercheurs. C'est là, pour le coup, un gros problème parce que ça bloque tout. Ça bloque absolument tout. Si les chercheurs ne peuvent pas faire leur travail pour arriver à des conclusions sur les effets du réseau, eh ben, on peut pas avancer. Et c'est ça qui est un gros, gros souci pour moi. Mais les deux idées également de Gilad Edelman et Cory Doctorow m'ont paru particulièrement intéressantes. Et entre parenthèses, elles seront dans la newsletter. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner si ça vous intéresse de voir le meilleur des articles dont je vous parle dans l'émission dans votre boîte aux lettres ou alors sur le compte RDVTech sur Twitter, mais également par la newsletter sur notepatrick.com. Vous pouvez vous abonner à la newsletter. Alors, on n'a pas fini avec les histoires de réglementation un petit peu compliquées. La dernière en date, c'est on revient en Europe. Il y a une loi qui est en cours de discussion qui s'appelle, je ne vais pas dire de bêtises, je reprends l'article de Numérama dont je me sers pour de base pour ce sujet. C'est le Digital Services Act qui est en cours de discussion en Europe. Et qui voudrait, je disais 2024 pour le port USB-C, peut-être que je me suis trompé dans les dates, c'est peut-être celui-ci qui pourrait être implémenté en 2024, je sais plus. Mais dans le cadre de cette loi qui régit le fonctionnement des services numériques, les lobbies de la presse sont en train de discuter de la possibilité d'interdire aux réseaux sociaux de modifier ou de supprimer les contenus publiés par des médias. L'idée est évidemment, on le comprend, elle est louable, c'est de protéger la liberté de la presse, la liberté d'expression de la presse. Et donc, ils se disent, ben, on a des choses qui sont légales dans la vraie vie, entre guillemets, eh bien, il faut que les choses qui sont légales dans la vraie vie ne puissent pas être influencées dans le monde numérique. Et donc, sur les réseaux sociaux, si quelque chose n'est pas illégal, on va interdire aux réseaux sociaux de le supprimer. Ou même de le manipuler, de le rendre moins visible, ce genre de choses. Ça vous rappelle peut-être une chose dont j'ai parlé il y a quelques semaines, que j'ai qualifiée de la pire idée du monde, et je pense sincèrement que c'est une très très mauvaise idée. Ça se passait en Floride, au Texas et au Brésil, où il y a des lois qui ont été présentées pour demander, pour imposer aux réseaux sociaux de ne pas pouvoir supprimer de contenu, ou censurer entre guillemets de contenu, sur la base des opinions, et des opinions politiques notamment. Dans ce contexte-là, c'était essentiellement promu par des partisans de l'extrême droite pour protéger leur discours, qui est souvent un discours qui est entre les fake news et le racisme. Quand on parle de Jair Bolsonaro, je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'est le sénateur, je crois, du Texas, un sénateur du Texas. Bon. Dans ce contexte, c'était un petit peu différent. Là, on parle des médias qui voudraient que les propos et les contenus postés par des médias spécifiquement soient protégés. Le problème, à mon sens, c'est que on tombe sur les mêmes travers, les mêmes revers, et que cette intention qui est compréhensible et louable a des conséquences quand on la considère dans la pratique qui sont vraiment néfastes. Parce que, d'une part, si on dit que ce contenu ne peut pas être touché par les réseaux sociaux, ça veut dire que n'importe quel, entre guillemets, média peut publier n'importe quoi sans qu'on puisse l'affecter. Et aujourd'hui, je vous rappelle que, oui, quand on parle des utilisateurs en général, on demande aux réseaux sociaux de supprimer les contenus controversés ou, entre guillemets, qui sont illégaux, aujourd'hui déjà. Alors, il y a des contenus sur lesquels on est tous d'accord qu'ils sont illégaux, et certains pourraient penser que les médias ne vont pas poster ce type de contenu, mais c'est mal connaître les détails des fonctionnements sur ces réseaux. Qui va déterminer qu'est-ce qu'est un média ? Est-ce que n'importe qui peut ouvrir un site web et dire « bah moi je suis un média, donc vous ne pouvez pas supprimer ce que je dis sur Facebook ?» Est-ce qu'on va considérer, par exemple, des médias comme des médias partisans de pays étrangers, bah, je vais pas dire les choses à moitié, des médias comme RT ou ce genre de choses, bah, ils sont clairement, ils ont une mission du Kremlin et ils poussent cette mission. Et il y a parfois des choses qu'ils postent, alors peut-être pas eux spécifiquement, mais d'autres de ce type-là, qui sont bah, de l'ordre des fake news. Il y a n'importe qui peut créer, comme je le disais, un média. Et est-ce que quand on dit il ne faut pas que la chose qui est une chose qui n'est pas illégale puisse être là, je vais préciser une chose. La raison pour laquelle je parle de la Russie et du Kremlin, c'est notamment parce qu'il y a une nouvelle découverte d'un réseau qui s'appelle Ghostwriter, je crois. C'est Ghostwriter, qui est clairement issu de Russie et qui a essayé d'influencer les élections politiques dans différents pays européens. Le dernier en date, c'est la Russie, l'Allemagne, depuis 2017. Et ils ont, au fur et à mesure qu'ils ont été débusqués des réseaux sociaux, ils se sont reportés sur les commentaires des articles de presse dans les sites de médias, et ils diffusent leurs fake news dans les articles de presse, par les commentaires, etc., etc. Donc il y a une vraie dynamique problématique sur ce type de choses-là. Et donc, il est tout à fait illusoire de se dire que ça ne va pas s'infiltrer dans, entre guillemets, encore une fois, ce qu'on considère comme des médias officiels. Je comprends l'intention des médias, mais une fois qu'on a établi cette règle, comment est-ce qu'on va déterminer qu'est-ce qui est légal ou pas ? Il est vraiment, quand on en parlait à propos du Brésil et du Texas, il y a des gens qui m'ont dit « Ah mais non, on n'a qu'à faire en sorte que l'appareil judiciaire puisse prendre en charge toutes ces décisions et décider de ce qui est légal ou pas quand on dépose une plainte. » C'est pas réaliste, c'est simplement pas réaliste, malheureusement. On peut pas, on a des millions de contenus qui sont postés chaque minute, et même si on considère que la petite part des médias, entre guillemets, ça fait beaucoup trop de contenu, on va pas mettre un juge derrière chaque publication d'un média, c'est pas possible, donc ça va prendre des semaines et des mois avant que les contenus soient jugés. Et nos problèmes se passent sur une échelle des heures. Quand un truc est disponible pendant 1 heure, 24 heures, 48 heures, c'est déjà trop. Et du coup, on va pouvoir faire la culbute entre ces différents contenus et la justice ne peut pas gérer ce genre de choses. C'est juste pas possible, c'est pas réaliste. Donc dire, bah, on n'a qu'à étendre l'appareil judiciaire pour qu'il puisse s'en charger, idéalement, oui, bien sûr. Et si vous vous en souvenez, c'est ce que je disais il y a quelques années à peine. Je disais, il faut pas livrer les clés de la justice à Twitter et Facebook. Je m'en souviens très bien, je le disais très clairement. Aujourd'hui, je constate, parce que je ne m'accroche pas à mes théories par principe, je constate dans la réalité que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut un premier champ d'activité des réseaux sociaux sur ces contenus. Sinon, tout s'effondre. Et comme le disait Gaël tout à l'heure, il y a des effets sur la société qui sont profonds. Donc, pour moi, et je vais arrêter ce monologue interminable, pour moi, cette idée du lobby des médias en Europe qui voudrait se protéger de la manipulation par les réseaux sociaux, donc de la suppression des contenus, et c'est l'enfer qui est pavé de bonnes intentions. C'est une bonne intention, mais dans la pratique, ça aurait des conséquences assez dramatiques. Je ne sais pas si je peux te poser la question, Florian, vu que tu travailles dans un média, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de cette idée-là ?
Très questionnel, parce que je ne sais pas ce que peut penser mon patron.
Bah, je ne vais pas t'obliger à répondre, du coup. Tu take the fifth, non, tu réponds pas.
J'ai un avis aussi. Ça, effectivement, c'est une idée à prendre avec de très très grosses pincettes. La question, c'est, comme tu l'as dit, oui, on a besoin des plateformes pour faire le ménage sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça veut pas dire qu'on les laisse faire tout seuls. Il faut un peu contrôler la plateforme quand elle fait elle-même son contrôle. C'est quelque chose qui va leur coûter très cher à Facebook, à Twitter et aux autres. Elles n'ont pas forcément très envie de le faire intrinsèquement. Et donc, il va falloir créer toute une structure qui va surveiller leur travail de modération. C'est là où il peut y avoir un texte de loi qui viendrait éventuellement fixer les règles que Facebook doit respecter, en l'occurrence Facebook. Mais sur le principe, faire une exception parce que un tel est un média, donc lui il peut publier tout ce qu'il veut et ça passera sans filtre, effectivement c'est pas tenable. Créer un média, c'est facile. Qui pourra dire que tel média est plus légitime qu'un autre? C'est impossible. Même le juge ne pourra pas se prononcer sur la question.
Oui. Peut-être. Alors après, on peut peut-être établir des règles, genre si on a X journalistes à la rédaction payés à temps plein, etc. Mais enfin, ça devient du bidouillage un petit peu compliqué. Est-ce que le Rendez-vous Tech est un média? Est-ce que moi, j'aurais le droit de publier n'importe quoi sur Facebook sans conséquence? Alors sans conséquence, après, il peut y avoir une action légale, hein, bien sûr. Mais peut-être qu'en fait, je devrais soutenir ce type d'initiative pour pouvoir poster un peu n'importe quoi. Bon, je vais y réfléchir.
Gaël, tu fais partie de la liste des personnalités qui peuvent publier ce qu'ils veulent.
Ah, peut-être, oui, je fais partie de la liste des VIP Facebook. <C'est ça>. Possiblement.
Non, mais sur ce sujet, on comprend pourquoi les médias veulent ça et pourquoi la presse pousse pour ça. Je comprends le fond derrière. Effectivement, c'est pas la bonne solution. Et quelle est la bonne solution si on l'avait il y a longtemps?
Ouais.
On l'aurait mis en place, mais ça pose tellement de questions. C'est quoi un média? C'est quoi la modération? Quelle est la part de justice? Quelle est la différence avec une plateforme? Enfin, c'est tellement complexe que je pense qu'on est loin d'avoir malheureusement trouvé la bonne solution. Moi, je reviens, je suis désolée, hein, je prêche toujours pour ma paroisse. Mais je pense que l'éducation aux médias, l'éducation au numérique, l'éducation est revalorisée. Les institutions, la presse, ce que fait le travail de journaliste notamment, c'est des choses essentielles et c'est peut-être par ça qu'il faut passer.
Ouais, je suis assez d'accord. On va conclure avec une série de petits sujets. D'abord, on a découvert un truc sur des téléphones Xiaomi en Lituanie spécifiquement qui sont assez surprenants. C'est le fait qu'il y a dans les téléphones Xiaomi un système qui est activable à distance et qui permet au téléphone de surveiller tout ce qui passe par le téléphone, les textes, et de signaler des titres ou noms ou informations de divers types de religieuses, politiques ou de ce genre de choses, et donc de les repérer et donc de les censurer. Sur le téléphone. Alors, Xiaomi dit non, 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 on n'a jamais fait ça en Europe, enfin, c'est pas du tout ce qu'on fait. Mais le truc, c'est que dans un contexte où la crainte vis-à-vis des possibilités de censure et de contrôle de la Chine sur les matériels technologiques en Occident est toujours aussi présente depuis les actions des États-Unis contre Huawei. D'ailleurs, ils sont en train de regarder du côté de Honor, qui est une marque fille de Huawei qui a été séparée au moment de l'embargo pour qu'ils puissent continuer à travailler chez Honor. Et ben, les États-Unis regardent du côté de Honor aussi. Mais cette histoire de Xiaomi, c'est vraiment gros. Alors, ça se passe dans le contexte où, si je ne me trompe pas, la Lituanie accueille un diplomate, un ambassadeur de Taïwan en tant que Taïwan et pas en tant que région. Enfin, c'est toute une histoire diplomatique. Donc, c'est un imbroglio un petit peu plus complexe. Mais le fait reste que cette histoire de téléphone Xiaomi qui peut repérer des phrases spécifiques ou des mots spécifiques et qui peut les censurer et peut-être sans doute en informer quelqu'un, peut-être le parti communiste chinois, eh ben, ça reste complètement... Enfin, ça n'a pas été démenti. C'est pas ça qui a été démenti. Xiaomi, ils disent non, 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 on n'a rien de tout ça en Europe. Mais c'est pas activé. Ce qu'ils disent, je vais vous donner la citation, les appareils de Xiaomi ne censurent pas les communications à destination ou en provenance de ses utilisateurs. Et Xiaomi n'a jamais restreint ni bloqué et ne le fera jamais les habitudes des utilisateurs de nos smartphones, telles que les recherches, les appels, la navigation sur Internet ou l'utilisation des logiciels de communication tiers. Ok, très bien. Ils n'ont à aucun moment nié que ce système était en place et qu'il pouvait être accessible, activé à distance. Donc, clairement, un truc un petit peu problématique qui relance cette question. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'était un sujet qui m'avait marqué.
Bah on note qu'ils n'ont pas menti.
C'est ça, voilà, ils n'ont rien dit. Donc, je n'ai pas menti. Les États-Unis, selon une rumeur, les États-Unis et la France et l'Europe seront en train de travailler à réguler les GAFAM, enfin la technologie, ensemble. C'est dans différents domaines, hein, comme le harcèlement, les algorithmes et ce genre de choses. Alors, on a différents groupes, bah, l'Europe et les États-Unis ont leurs travaux légaux et législatifs de leur côté. Ça serait pas mal de travailler ensemble pour essayer d'établir des standards. On en parlait tout à l'heure, Florian l'évoquait avec l'histoire des médias. Peut-être qu'on est en train de se diriger vers ça, un accord, alors qui satisfera personne, mais ça voudra dire que ça sera des bons compromis. C'est le tout début, hein. Là, c'est juste peut-être qu'ils vont travailler ensemble, on verra. Je sais pas si vous l'avez noté à propos de censure ou de bannissement. Hugo Décrypt était en train de commenter le débat entre Jean-Luc Mélenchon et j'ai déjà oublié son nom, Éric Zemmour, voilà, sur BFM TV, et il a vu sa chaîne Twitch sur laquelle il commentait en diffusant BFM TV se faire bannir temporairement en direct. Et c'était dû en fait à je vous explique pour que vous compreniez bien si vous entendez parler de cette histoire, c'était dû au copyright de BFM TV parce que il diffusait l'émission telle quelle en commentant par-dessus. C'est un truc dont j'ai été entre guillemets victime avec Apple pour quelque chose de bien moins sérieux et important avec Apple il y a quelque temps sur Twitch. Je vous en avais parlé dans un édito Patriot. Mais donc BFM a les droits du truc et comme il diffusait ça avec peu de modifications, ça a été censuré. Il s'est retrouvé banni, comme toujours, pour ces histoires de DMCA, Digital Millennium Copyright Act. Ça a duré pas très longtemps, heureusement. Il comprend, lui-même s'est exprimé, il a dit « Oui, bah malheureusement, je comprends que ça fonctionne comme ça, mais il aimerait, et là, c'est moi qui le comprends, il aimerait qu'il y ait un accord, notamment avec BFM TV, mais avec les chaînes en général, pour qu'on puisse commenter, peut-être pas toutes les diffusions, mais en particulier les discussions politiques importantes, notamment à l'approche des élections. Bon, il y a toujours une solution, hein. On peut commenter et demander à tout le monde de regarder le truc en live en même temps. On peut même faire une petite page qui intègre les deux embeds, les deux fenêtres en même temps, donc notre commentaire et le truc qu'on commente sur une page web. C'est très facile, ça prend 2 secondes. Moi, je l'avais fait justement pour commenter des trucs ensuite. C'est possible, mais l'idéal serait effectivement qu'il y ait un accord pour ces choses-là. Ça me semble un petit peu compliqué à ce stade. Et comme je disais, TikTok a 1 milliard d'abonnés. Et je conclue avec une news qui est marrante, intéressante. Il y a une jeune femme qui s'appelle, je vais pas vous dire de bêtises, qui s'appelle quelque chose Franck, Sarah Franck, voilà, qui a partagé sur son TikTok une astuce pour se faire un petit peu d'argent, qui disait, eh ben, vous pouvez aller sur le site prolifique.co et c'est des sondages, des enquêtes, qui sont rémunérées, qui servent souvent à des études scientifiques. Et vous en faites quelques-unes. Alors, c'est pas rémunéré beaucoup, c'est moins $1 par enquête. Mais si vous en faites quelques-unes par jour, ça peut vous rapporter $10-15 dans la journée et ça vous fait un petit peu d'argent. Sauf que son TikTok est devenu complètement viral. Elle a gagné 4,1 millions de vues en un mois. Elle avait posté ça en juillet. Et quelques semaines plus tard, il y a des chercheurs qui se sont exprimés sur Twitter et qui ont dit « Mais il y a un truc qui s'est passé, qui est bizarre sur nos enquêtes. On a tout à coup un changement de pourcentage de population, de démographie, qui est vraiment étrange. On était à 50% de femmes, et tout à coup, sur le mois de juillet, on est passé à 80% de femmes, très jeunes, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, en un TikTok de 56 secondes, Sarah Franck, malheureusement, elle en a parlé, ensuite, elle était désolée, elle a trouvé ça intéressant, un petit peu marrant, mais elle a, en fait, influencé des milliers d'études scientifiques avec ce TikTok là, et je trouvais que c'était un beau moyen de donner un exemple de l'influence et de l'importance de TikTok en conclusion de l'émission. J'avais trouvé ça intéressant, marrant à savoir, mais un petit peu marrant.
Il va y avoir une étude scientifique sur ce phénomène.
Exactement, il faut trouver. Eh bien, c'est peut-être le Sarah Frank effect, tu vois. Peut-être que on va devoir lui donner le nom de cette personne, le Sarah Frank effect, qui est l'influence sur des études scientifiques quand on en parle sur TikTok. Bon, bah merci à tous les deux d'avoir participé à l'émission. J'ai passé un fort bon moment. Avant de se quitter, je vais évidemment vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par Florian, dis-nous tout. Alors, Les Échos, bien sûr. Tu as un compte Twitter également. Dis-nous, on peut te retrouver sur Internet quand tu n'es pas dans le monde.
Alors, j'ai un compte Twitter, FL_DEB, D-E-B-E-S, et LinkedIn aussi, à mon nom, si vous voulez.
Ça marche, je mettrai évidemment le lien dans les notes de l'émission. Gaël, dis-moi, j'ai une question. J'aimerais bien pouvoir donner une astuce pour que les gens puissent s'éduquer aux médias et aux réseaux sociaux, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu aurais une idée à me proposer?
Quelle belle transition. Mais oui, tout à fait. Mais Cood.fr, COOD.fr. Écoute, voilà, on est sur tous les réseaux sociaux, sauf sur TikTok, on n'a pas osé.
Vous avez dit, ça va faire How do you do, fellow kids, le même de.
Oui, c'est ça. Okay. Cood_fr un peu partout, ou Cood.fr, et tu nous retrouves. Voilà. Mais un jour, on se lancera peut-être sur TikTok, mais on n'y est pas.
Super. Merci beaucoup, Gaël. Le lien sera également le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous avez tous les liens sur notepatrick.com, notamment celui de la newsletter, comme je vous en parlais tout à l'heure, et celui du rendez-vous tech, de la veille du rendez-vous tech sur Twitter. Tout ça vous permet de suivre en direct les choses les plus importantes sur ces sujets. J'aimerais également remercier les gens qui ont mis des commentaires sur iTunes. Vous avez été nombreux ces dernières semaines à laisser des commentaires positif plutôt sur iTunes, donc un grand grand merci. Je vous avais parlé de l'importance de ça il y a quelques temps, donc vraiment j'apprécie beaucoup le fait que vous ayez pris le temps de le faire. N'hésitez pas à le faire si ça n'est pas encore le cas, et évidemment le Patreon, patreon.com/rdvtech, pour une émission avec zéro pub, pour des épisodes spéciaux sur la manière dont je fonctionne, sur des sujets d'édito qui, j'espère, sont intéressants pour les auditeurs, et puis surtout avec la partie la plus importante, qui est le fait de se dire, bah oui, je soutiens le Rendez-vous Tech parce que je soutiens le contenu que j'apprécie. C'est disponible gratuitement, tout le monde peut en profiter, mais si personne ne soutient, ça existerait peut-être pas. Donc, je fais une action positive et je vous remercie tous et toutes de soutenir l'émission. C'est grâce à vous que je peux avoir ce travail et en faire un vrai travail, en avoir une société qui fonctionne, en plus du fait d'avoir des enfants qui ont à manger. C'est un vrai travail, c'est une vraie activité professionnelle à laquelle je me dédie avec passion, et c'est grâce à vous que je peux le faire. Sans vous, ça ne serait pas possible. Donc patreon.com/rdvtech si vous souhaitez rejoindre cette aventure. Et tous et toutes, vous êtes bienvenus sur le Discord, qui est un endroit communautaire super sympa, où on parle de plein de choses, de tech, de gaming, de tout plein de choses, et qui est vraiment hyper intéressant, et dont dans lequel je viens discuter aussi des sujets dont on parle dans l'émission, qui me sert également pour prendre le ton et le pouls de la communauté. C'est hyper sympa, et le lien est, comme tous les autres, sur notepatrick.com. Merci à vous tous et toutes de vous m'avoir écouté, et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.